Merci. Merci beaucoup pour la richesse du débat. Comme beaucoup de choses ont été évoquées, il y avait un point sur lequel je voulais revenir, qui était ce qu'avait dit Madame Schulz sur le fait qu'à Genève, et je suis entièrement d'accord avec ce constat, les choses fonctionnent par silos, et je crois que le terme de féodalité était probablement même plus pertinent que le terme de silo. Et il y a une reproduction comme ça qui se fait. Et du coup, effectivement, je crois qu'un des grands problèmes que l'on a, c'est d'avoir cette possibilité de dialogue dont vous aviez parlé, qui existe au niveau fédéral, alors avec ses limites quand même. Mais effectivement, c'est posé comme étant le premier point sur lequel on va, qui est la première démarche, c'est toujours la première étape. Donc on va écouter un certain nombre de personnes et on va voir ce débat. Ça, c'est ce qu'on n'a pas ici, à Genève, du tout. On prend la décision, puis après on se dit, ah, mais il risque de se plaindre, donc on va voir qui on pourrait consulter pour qu'il se calme. C'est un peu ça le processus. Et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui devrait être changé. Et donc on a besoin d'un lieu où des discussions puissent se faire de façon sérieuse. Et au-delà de ça, et au-delà des discussions, on a un autre problème qui est celui de la connaissance de la réalité. C'est vrai que Genève, tu l'as souligné, Cyril, c'est tout petit, c'est un petit bled. Guy-Olivier Segond s'amusait à le comparer à Carcassonne pour nous provoquer un peu, mais il n'avait pas tout tort. En tout cas, il y a un peu de l'esprit de Carcassonne dedans. Mais un des problèmes que l'on a, c'est justement en étant tellement sûr de nos propres féodalités qu'on ne voit pas une partie des éléments de la réalité qui se passe. Or, on a quand même de bonnes pratiques à Genève. Si on prend, quelques exemples, si on prend ce qu'on a été capable de faire, par exemple, pour les personnes clandestines ou autres, plusieurs fois, il y a eu de véritables débats entre ceux qui sont sur le terrain, entre ceux qui sont sur le terrain et qui voient un certain nombre de problèmes qui ne sont pas visibles quand on se promène simplement dans la rue parce que l'état des gens et leur statut juridique n'est pas indiqué sur eux, mais en fait, on les côtoie. Et qui ont de véritables difficultés, et ça, il faut le faire remonter. Et ensuite, il faut des moments de discussion qui permettent de voir quelles peuvent être, dans les institutions existantes, les meilleures solutions faisables. On a été capable de le faire, mais sur des choses toujours très très précises. On n'est pas capable de le faire de façon plus systématique et de façon régulière. En gros, il faut qu'il y ait une sorte de crise. Et puis à partir de là, on se dit, ah ben là, on va peut-être quand même l'éviter. Et hop, on fait l'effort supplémentaire parce qu'on en est tout à fait capable de se dire, on va se mettre autour d'une table, qui connaît bien le domaine, etc., etc. Mais il faut attendre que ce soit un peu chaud. Tant que ce n'est pas chaud, à froid, on ne va pas le faire. Et je pense que c'est là qu'on a l'enjeu. Et c'est pour ça qu'effectivement, la Cour des comptes, oui, c'est une excellente idée. J'aime assez bien l'idée comme quoi, en fait, plusieurs évaluations peuvent être faites. Donc, avoir des évaluations très régulières faites avec la compétence de la Cour des comptes serait absolument utile. Mais ça, ça ne fait pas remonter ce que des gens de terrain voient et surtout le côté précoce de l'évolution de certains phénomènes. Parce que c'est là qu'on a un peu un des problèmes. Et Genève se connaît très très mal. Et c'est à travers les praticiens, mais ça peut être ceux qui sont dans le parascolaire, par exemple. Le parascolaire voit évoluer des phénomènes sur le terrain. C'est jamais considéré comme étant une base. Est-ce qu'on fait véritablement discuter les personnes qui sont tous les jours dans les activités de parascolaire pour voir remonter certains problèmes qu'on voit déjà tout de suite arriver? Non, on va attendre que ce soit chaud. Or, toute une série d'actions de la société civile ont cette capacité de pouvoir faire remonter des choses. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à devoir inclure dans l'évaluation. Un processus d'évaluation et un processus collectif, ça reste, à mon avis, quelque chose d'absolument nécessaire à Genève. Et là, je suis d'accord avec Cyril. Je pense qu'en mettant l'accent là-dessus, on devrait pouvoir l'obtenir. On devrait même se fixer un délai pour dire, il faut que cette institution, elle soit créée dans les 2 ans qui viennent ou quelque chose comme ça. Enfin, elle est fixe. À partir de là, si ce n'est pas le cas, on met le paquet pour protester. C'est inacceptable qu'à Genève, on ne soit pas capable, depuis qu'on ait adopté la Constitution, avoir déjà ce forum. Il y a quelque chose qui passe pas. Donc voilà, là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et ensuite, par-dessus, on peut commencer à développer les différentes institutions. Puis alors, peut-être juste un mot sur la question sur la question du centre de compétences, qu'on soit bien d'accord. L'un des critiques qui était fait par ceux qui étaient membres du centre de compétences et qui étaient même prêts à dire on va remettre notre tablier, ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a quand même la proposition de voir quelque chose venir, c'est que justement ça reste universitaire, c'est-à-dire et inter-universitaire. Alors c'est génial, mais c'est une simple institution universitaire, alors qui évidemment peut faire les recherches en toute indépendance, mais reçoit les mandats quand même du fédéral, mais c'est pas un lieu où il y a une discussion, c'est pas un lieu où il y a des avis qui sont distanciés. Donc, on est très, très loin d'une institution nationale. Donc, si on arrive au moins à avoir une vraie institution, même avec son mini-budget, ben, c'est un mini-budget, c'est ridicule, hein, c'est de l'aumône, c'est pas vraiment un budget. Mais si on arrivait à avoir une véritable institution qui avait au moins l'indépendance et qui pouvait démarrer, ce qui est intéressant, c'est que dans les discussions, même le Forum, enfin, Économie Suisse, considérait que ce million-là, c'était vraiment trop peu. Vous disiez, c'est 2-3 millions minimum. Donc ça, c'est pas nous qui le disions, c'était Économie Suisse, hein, parole d'expert en l'occurrence. Donc voilà, ça montre qu'il y aurait la possibilité, il faut au moins que cette histoire démarre. Parce qu'actuellement, on n'arrête pas de discuter, il faudrait que le plan soit toujours mieux, et on se retrouve des années après les décisions, et toujours rien n'a été mis en œuvre. Et ça, je crois que ça commence à devenir vraiment problématique, que ce soit à Genève ou au niveau fédéral.
Patricia Schulz, vous souhaitez intervenir. Je vous donne mon micro.
Merci beaucoup. Oui, j'aimerais rappeler l'article. Est-ce qu'il est bon ?
Ok,
merci. Merci. Il y a un article 226 dans la Constitution qui parle de la législation d'application. C'est un article intéressant pour créer la pression. Il dit, alinéa 1, les modifications législatives requises par la présente Constitution sont adoptées sans retard, mais au plus tard dans un délai de 5 ans, dès son entrée en vigueur. Alors, il faudrait y revenir à ça. Et l'alinéa 2 disait, à cette fin, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014. Ok, oui, il y a eu quelque chose. Il y a eu un programme, il y a eu des modifications, mais il n'y avait rien pour la mise en œuvre de l'article 42. Donc là, on revient à ce que Cyril mentionnait, le refus de répondre ou bien le changement dans l'approche du Conseil d'État sur comment faire cette évaluation, enfin la disponibilité, l'ouverture à cette création. Maintenant, sur l'impossibilité qu'aurait cette Cour des comptes et des droits humains d'être compétente sur tous les sujets. Effectivement, personne ne peut être compétent sur cet ensemble. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas se renseigner à l'extérieur d'elle-même ? Alors, elle aurait des gens qui sont des gens très compétents en matière d'évaluation et des gens très compétents en matière d'évaluation, même s'ils sont totalement ignorants d'un sujet, ils peuvent l'évaluer parce qu'ils prennent 2 mois, 3 mois, 4 mois pour maîtriser le sujet et ils le font en écoutant les gens, en faisant des enquêtes. Je voudrais partager avec vous une expérience qui nous est arrivée au Bureau fédéral. Le Bureau fédéral de l'égalité, 10 ans après sa mise en route, a été évalué. À ce jour, c'est le seul office fédéral qui ait jamais fait l'objet d'une évaluation. Vous pouvez imaginer que les motivations de l'évaluation n'étaient pas toutes sans arrière-pensée. Moi, quand j'ai appris qu'on allait être évalué, j'étais catastrophée. Je me suis dit, ça va nous pourrir la vie pendant des années, ça va prendre du temps, ça va mobiliser nos ressources, on va penser qu'à ça. Et on a vu débarquer 3 spécialistes de l'évaluation, c'est un service du Parlement, qui avait aucune idée en matière d'égalité, mais aucune idée en matière de violence à l'égard des femmes. Quand ils ont appris qu'il y avait plus de plaintes quelques années après que le bureau ait fait quelque chose qu'avant, ils nous ont dit qu'on avait donc raté notre travail. On leur a dit qu'on avait peut-être réussi notre travail parce que ça voulait dire que les femmes se rendaient compte qu'elles pouvaient se plaindre, que c'était pas normal qu'elles se fassent tabasser. Donc des choses comme ça. Eh bien, ils ont appris. Et moi, j'ai été absolument stupéfaite. Moi, j'ai appris beaucoup en voyant comment ils ont procédé, le nombre de personnes qu'ils ont auditionnées dans toutes sortes de milieux. Ils sont allés voir les collègues de l'administration fédérale. Ils ont invité 80 organisations de femmes, plus les partenaires sociaux et je veux dire Économie Suisse et le comment ça s'appelle, les Arbeit Geber, enfin bref, les grandes associations patronales, syndicales, etc. Ils connaissaient rien de même. Ils ont fait un rapport magnifique, qui a préservé le bureau de la disparition pendant les 5 ans qu'on suivit. Chaque fois que certains partis ont essayé de bousiller le budget du bureau ou son existence, le Conseil fédéral revenait avec le rapport en disant voilà, c'est un rapport indépendant qui montre que ce bureau a fait son travail correctement. Donc voilà, c'est là où on n'a pas besoin de tout savoir soi-même, mais on l'apprend et on l'utilise, ce nouveau savoir.
Omar.
Merci. En matière de crédibilité, par rapport à la discussion actuellement en cours au Grand Conseil, l'inclusion des communes est absente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on arrive à mettre en place un organe, que ce soit la Cour des comptes ou un organe ad hoc, cet organe-là va faire une évaluation, il va y avoir des recommandations, et ensuite ces recommandations-là, elles vont retomber directement au niveau municipal. Aujourd'hui, on n'inclut pas les communes dans cette discussion-là, ou très peu, et puis surtout, quels moyens on va donner aux communes pour mettre en œuvre les recommandations ? Et c'est là où, en tout cas avec le projet qu'on va porter à la ville de Genève, c'est hormis la commission ad hoc, on va tenter, c'est pour ça que c'est un projet de délibération, on va tenter de mettre un fonds qui sera dédié notamment à la collecte de données pour pouvoir justement doter la société civile de moyens supplémentaires pour nous fournir les données dont on a besoin afin d'établir des priorités budgétaires. Mais il y a quelque chose qui doit être clair dans cette approche-là. Je pense qu'on pourra le faire avec l'ensemble de l'alternative, mais si on doit amener l'état généraux des droits humains aussi, c'est pour ça. C'est qu'il faut remettre sur la table l'ensemble du dispositif, et surtout, il faut le faire communiquer entre l'État et les communes.
Quand vous avez présenté l'évaluation périodique indépendante, vous avez eu un marqueur, c'était la suppression d'Office des droits humains. Moi, j'ai rebondi un peu sur la proposition de M. Varone qui dit que finalement, et ce serait peut-être bien d'avoir plusieurs organismes au sein de l'État qui procèdent à l'évaluation, qui est la Cour des comptes sur un aspect spécifique, peut-être après d'autres organismes. Est-ce que quelque part, la multiplication des organismes qui pourraient procéder à cette évaluation, est-ce que ça ne permettrait pas une mobilisation plus large au niveau du canton, quoi, des autorités ? Monsieur Varone.
Je voulais juste encore élargir la question pour que ça soit vraiment provocateur. Pourquoi on parle que d'évaluation ex post ? Pourquoi on parle que d'évaluation une fois que la loi est adoptée ? Si vous prenez l'article 141 de la loi sur le Parlement fédéral, il dit que tout message du Conseil fédéral qui accompagne un projet de loi doit estimer les effets de cette loi sur les droits fondamentaux. Où est le Grand Conseil quand il adopte une loi et qu'il s'agit d'évaluer ex ante les éventuels effets ? J'espère qu'après avoir plaidé pour la pluralité des organismes, d'avoir encore enrichi le débat potentiel en disant qu'il y a différents moments de l'évaluation.
Monsieur Mirazi, pardon.
Oui, alors je rebondis sur le dernier élément. J'ai envie de répondre quand même de manière un peu provocante. Je serais ravi de voir comment le Parlement fédéral procède à cette évaluation. Et là, ça titille ma curiosité. Je pense que je vais aller voir dans les messages. Mais disons, par exemple, dans la loi sur le Grand Conseil, la loi portant règlement du Grand Conseil à Genève, on a un élément qui dit que quand on présente un projet de loi, on doit évaluer les conséquences financières du projet de loi. Après, dans la pratique, je suis pas sûr que c'est ça qui va. Enfin, je suis pas sûr qu'il faille attendre beaucoup du Parlement dans son évaluation ex ante, mais enfin, pourquoi pas? En tout cas, il faudrait voir comment ça se fait au niveau fédéral. La pluralité. Je pense que il nous manque quelqu'un. Il nous manque probablement autour de la table d'anciens collègues constituants comme Thierry Tancrel et Michel Hôtelier sur l'interprétation de cet article 42. Il y a quand même quelque chose qui me semble assez faire consensus. C'est que l'État doit être le garant de ça. On peut pas juste dire ça va se faire, et puis c'est un peu, je caricature un peu la position sur la pluralité, mais le danger c'est un peu de dire que oui, en fait c'est déjà fait, et c'était la position du gouvernement de dire oui, la commission des droits de l'homme le fait. Bien sûr, dans une certaine mesure, on fait tous de l'évaluation des droits fondamentaux. Bien sûr, l'ONU le fait, etc. Mais non, c'est pas suffisant. Le canton. Et alors après, il faut évidemment associer communes, mais le canton doit être le garant de cette affaire et donc doit mettre en place un organe qui doit être le garant. Après, on peut le faire de manière plus ou moins décentralisée, mais il faut qu'il y ait un garant. Et sur l'inaction de l'État, je vous donne encore cette anecdote et je finirai par là, cette intervention en tout cas. Merci Patricia d'avoir rappelé cette histoire. J'ai pas rappelé dans l'historique tout à l'heure parce que ça aurait été trop long. Le fameux rapport du Conseil d'État sur la mise en œuvre de la Constitution. ça a été aussi toute une histoire. Donc ce rapport a été déposé et il y avait évidemment un certain nombre de critiques parce qu'on a tout de suite vu ce que le Conseil d'État était d'accord de faire et surtout ce qu'il n'était pas d'accord de faire, à commencer par cet article 42. Et je peux vous dire, c'est pas parce qu'on est ici en train de parler de l'article 42, ça a été le point d'achoppement principal qui a fait que le Grand Conseil, on a obtenu, je sais pas trop comment, c'était notre première victoire sur cette histoire d'article 42, le renvoi à l'expéditeur de ce rapport essentiellement parce qu'il n'y avait rien sur l'article 42. Et puis ensuite, le renvoi, normalement, c'est dire que le Conseil d'État est censé faire une nouvelle version. Alors on était déjà en 2016, hein, donc on s'est dit, mais au moins symboliquement, on s'est dit, il faut que le Conseil d'État revienne avec quelque chose, etc. Puis un beau jour, j'ai écrit au Sautier, le secrétaire général du Grand Conseil, je lui ai dit, mais c'est bizarre sur cette affaire, ça fait je sais pas combien de temps qu'on a renvoyé cet objet au Conseil d'État, puis qu'on voit rien venir. Et le Sautier m'a dit, oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de délai. En la matière, sur les motions, on a un délai. Je crois que le Conseil d'État est censé revenir dans les 6 mois. Mais donc y compris quand on renvoie une réponse sur une motion, le Conseil d'État est censé revenir dans les 6 mois. Mais sur un rapport divers comme celui-là, la procédure parlementaire prévoit pas d'obligation pour le Conseil d'État de revenir avec la nouvelle version du rapport. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le Conseil d'État ? Eh bien, il est jamais revenu parce qu'il avait rien à nous dire. Voilà.
Ok. Une autre question dans le public ?
Donc, Diego Esteban, j'ai le plaisir de siéger avec Cyril, tant à la commission des droits humains qu'à la commission législative, qui sont assez proches finalement de la thématique parce que vous l'avez peut-être vu récemment, un rapport assez conséquent de la commission législative sur la protection des lanceurs d'alerte a été publié et je pense illustre assez bien les risques auxquels on se confronte un peu dans le domaine des mécanismes qu'on instaure pour garantir une protection suffisante de tous les dispositifs démocratiques de mise en œuvre des droits humains. On a beaucoup parlé de la Cour des comptes, par exemple, parce que finalement, il y a une possibilité de signaler des dysfonctionnements dans l'État à la Cour des comptes, mais c'était... j'ai aucune idée de quel sera le sort réservé à ces projets en raison de ce point qui a été obtenu à la Pyrrhus, je ne sais pas trop comment, et puis la majorité est tout sauf stable. Bref, donc on est dans des considérations qui sont assez proches. Parce que quelque part, je l'avais dit lors d'un précédent événement qui discutait du sujet, la Cour des comptes, un peu comme tous les autres mécanismes du genre, a tendance par les autorités politiques à vite être vue comme une machine à critiquer des politiciens. Ça, bien évidemment, ça génère un certain nombre de tensions et ça suscite peu d'enthousiasme quant au développement de ce genre de dispositif. Moi, ça fait depuis 2 ans que je suis maintenant dans un mandat électif. Je suis pas encore tout à fait habitué à quel point le fait que quelque chose soit prévu dans la Constitution ou dans la loi, ça suscite assez peu de... ça suscite une certaine indifférence. On a quelque chose qui est écrit dans un texte légal et puis personne ne semble voir une quelconque urgence de mettre ça en œuvre. Donc du coup, on a décidé de faire ce travail qui n'est traditionnellement... Enfin, c'est pas celui du... Enfin, historiquement, c'est bien le législateur qui doit légiférer, mais dans la pratique, on a quand même la politesse d'attendre une proposition du Conseil d'État qui est beaucoup plus au fait des réalités opérationnelles des mécanismes étatiques. Ici, on doit vraiment faire le travail à zéro. Et on a vraiment cette particularité de devoir se baser sur des mécanismes qui existent au niveau national et international, mais sur un plan local. Alors que je pense pas... Enfin, bien que j'entende parfaitement que l'idée, c'était d'importer ce qui se faisait dans ces domaines, je vois aussi que le système démocratique genevois a quand même ce niveau de proximité avec la société civile qui doit quand même aussi être pris en considération dans les agencements des différents éléments du mécanisme. L'Assemblée constituante, typiquement, connaissait un groupe indépendant formé de représentants d'associations, dans une étude, je crois, de l'Université de Genève de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, il a été relevé que finalement les élus genevoises à tous les niveaux se référaient beaucoup plus à l'avis des associations que dans le reste de la Suisse pour prendre une décision sur un objet soumis à leur décision. Et dans ce cas de figure, on voit que le Conseil d'État l'a bien compris, parce que je pense qu'il traite un peu cette demande de mettre en œuvre une évaluation périodique indépendante comme la volonté de l'associatif Genevois d'être dans l'ombre de l'ONU et de vouloir faire la même chose à son échelle. Donc dans ce côté-là, la principale difficulté qu'on a, c'est de réussir à créer quelque chose de connu sur le plan cantonal en termes de structure et d'intégrer le milieu associatif pour rester pertinent par rapport à la volonté du mécanisme sans pour autant créer un doublon avec ce qui se fait déjà au niveau international.
Merci. Madame Schultz.
Merci beaucoup. Deux aspects. D'une part, je voudrais revenir sur la pluralité d'organes. Au niveau fédéral, il n'y a aucun doute qu'on a une pluralité d'organes. Par exemple, la commission antiracisme ou la commission sur les questions féminines, ou il y a une commission sur questions d'enfance et de famille. Enfin, il y a toute une série de commissions qui ont chacune un mandat et qui sont des commissions extra-parlementaires, donc avec des membres de la société civile, pas de membres de l'administration. Mais des secrétariats qui sont peuplés de fonctionnaires compétents et compétentes, espérons-le, et qui assurent le suivi des travaux de ces commissions qui siègent deux ou trois fois par année, quelques jours, chaque fois un jour ici, deux, trois jours là. Mais ça n'empêche pas la nécessité d'avoir, malgré tout, une institution nationale de droits humains qui est reconnue comme telle. Et ma question, enfin moi, j'arrive plus à me souvenir maintenant de quel est le terrain à Genève à ce niveau-là. Il y a la commission des droits de la personne du Grand Conseil comme commission parlementaire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelques commissions extra-parlementaires spécialisées qui pourraient être des relais très importants et des partenaires, en fait, d'information. Moi, il me semble qu'en matière de violence et droits des femmes ou égalité, il y a une commission. Il y en a peut-être d'autres qui pourraient être plus actives que ce qu'elles ne l'ont été. Et puis, dernier mot par rapport à l'ONU, quand j'avais lu dans une des réponses du Conseil d'État qu'il y avait l'examen périodique universel et que ça suffisait, j'ai presque pas cru mes yeux, parce que il faut savoir que le rapport d'un pays au Conseil des droits de l'homme, c'est 20 pages, 20 pages en tout et pour tout, pour la totalité de tous les droits fondamentaux dans un pays. D'accord ? Devant les organes de traité, un rapport périodique, c'est un maximum actuellement de 40 pages. Alors les États en font souvent plus, mais c'est ça. Donc, on ne peut pas dire beaucoup de choses dans ce nombre de pages.
Oui, juste pour compléter, sur la commission, les commissions extra-parlementaires, à ma connaissance, il y a quand même surtout la commission sur l'égalité entre femmes et hommes, et j'en vois pas vraiment d'autres qui sont vraiment spécialisées sur les questions de droits humains. Et la tendance n'est pas à l'augmentation du nombre de ces commissions. Donc c'est pour ça que moi je serais plutôt pour effectivement un organe qui ressemble peut-être, enfin qui fait un peu le lien entre, enfin qui ressemblerait plus à une commission extra-parlementaire dans la largeur de sa composition, tout en ayant éventuellement un lien avec la Cour des comptes. Mais j'aimerais revenir et rebondir sur ce que disait mon collègue Diego Esteban sur la Cour des comptes. Il faut vraiment comprendre que la Cour des comptes, pourquoi on a un certain nombre ici à dire qu'on est des fans de la Cour des comptes ? Mais parce que ce n'est pas du tout une évidence. Parce que la Cour des comptes cristallise un nombre invraisemblable d'oppositions. Il y a eu des conflits institutionnels. Une fois, quand la Cour des comptes a voulu changer de locaux, et puis que la présence du Conseil d'État disait « Non, vous n'avez pas le droit de faire ça », etc. Il y avait des clashs absolument incroyable, et cette Cour des comptes, elle cristallise un certain nombre de craintes. Alors c'est pas pour ça qu'il faut pas se contenter de cet argument pour dire il faut surtout pas avoir affaire à quoi que ce soit avec la Cour des comptes, mais il faut tenir compte de ça. Et sur les lanceurs d'alerte, on était un certain nombre au sein de cette commission, dont Diego et moi, à soutenir que l'élément de l'anonymat, il est fondamental en matière de protection des lanceurs d'alerte, mais on avait face à nous un mur de gens qui nous signalaient que l'anonymat, c'était le truc du Troisième Reich, etc., mais des arguments comme ça. Et on a dû déployer des trésors d'ingéniosité pour finalement arriver péniblement au forceps à maintenir cette possibilité pour la Cour des comptes de recevoir des signalements anonymes. Et on verra ce que le Grand Conseil en fera. Mais voilà, c'est juste pour illustrer sur une question qui est vraiment hyper liée aux droits humains, parce qu'il s'agit de la protection des lanceurs d'alerte, l'article 26, alinéa 3, et de voir comment ça peut coincer avec la Cour des comptes et le monde politique.
Merci. Encore, je reviens vers vous. Une autre question ?
J'aimerais juste une ou deux remarques.
Après, Mme Conta.
Christophe Golet, je travaille à l'Académie de droit international humanitaire et droits humains. J'ai parti un peu à l'examen à Genève, aussi aux examens au niveau suisse, et à l'ONU depuis plusieurs années. La première, sur la pluralité et puis l'institution garante. À l'ONU, il y a quand même une institution garante, c'est le Conseil des droits de l'homme, pour l'examen périodique universel. Et ça ne veut pas dire que c'est le seul qui fait un travail de monitoring. Évidemment, il y a tous les organes de traité, il y a les rapporteurs spéciaux. La grande nouveauté quand même de l'examen périodique universel, c'est qu'en plus de le rapport de 20 pages de l'État, il y a le rapport de 10 pages uniquement de la société civile. Et il y a un rapport des Nations Unies qui compile toutes les recommandations des organes de traité et des rapporteurs spéciaux. Donc c'est en fait, c'est que ça catalyse, si vous voulez, ça renforce les recommandations des autres organes qui existent et qui peuvent aussi, en effet, faire le monitoring des droits existants. Donc c'est important d'avoir un garant très clair et qui peut renforcer les recommandations des autres. Deuxième remarque sur l'article 41 de la Constitution, le fait que tous les représentants de l'État doivent respecter, protéger et réaliser les droits fondamentaux. Hein, c'est de ça qu'on parle. On parle que de politique publique ce soir. Il y a aussi, par exemple, le rôle des juges. Des droits comme le droit au logement concernant dans la Constitution ne sont pas reconnus comme étant justiciables à Genève. C'est un scandale. Ça devrait aussi faire partie de l'évaluation de la réalisation des droits fondamentaux. Les juges aussi sont tenus de protéger les droits qui sont dans la Constitution comme des droits fondamentaux. Donc voilà, est-ce qu'on peut essayer de garantir que cet organe à créer soit aussi compétent pour juger les trois pouvoirs et pas uniquement des politiques publiques. Et puis j'ai une question pour Omar sur, vous avez identifié dans la ville 5 thématiques. Vous pouvez nous dire lesquelles ?
Alors, je ne vous cache pas que c'est une discussion qu'on a avec le Rosé-Rogard aussi, hein, qui a mis en avant le besoin de mettre en œuvre cette périodicité, justement, qui faisait partie des conditions de Madame Schulz. Donc, il y aurait 5 champs annexes par année pour couvrir la législature en entier. Le premier serait droit des minorités. Le deuxième serait étrangers, logement et aide sociale. Le troisième serait procédure et sécurité. Le quatrième, développement de Genève. Entendez par là développement durable, droit à l'environnement sain, etc. Et le cinquième, liberté. Mais encore une fois, c'est une proposition. Donc ça sera discuté en commission si on arrive à faire adopter ce projet.
Ah oui, je rajoute une chose, pardon. Oui.
En allant un peu plus loin, en vous entendant en fait, et là ça m'a fait penser à l'action d'Anne Marère et des aînés pour le climat. Je vais être un peu provocateur, mais à un moment donné, si le Grand Conseil tarde à mettre en œuvre cet article 42, est-ce qu'il ne faut pas aller au tribunal fédéral pour réclamer, en l'occurrence, que le Conseil d'État applique la loi et la mette en œuvre en tant que telle, puisqu'aujourd'hui, les principaux blocages viennent de la volonté politique de mettre en œuvre cet article 42. Parce qu'une fois que le projet de commission y sort, il va y avoir l'action du Conseil d'État. Et c'est vrai que c'est une question qui s'était posée dans le cadre des MNA, avec le collectif de lutte pour les mineurs non accompagnés, qui disait, voilà, le Conseil d'État aujourd'hui refuse d'adopter une politique publique pour répondre à cette problématique-là. Est-ce qu'on ne doit pas aller au tribunal fédéral ?
Je vous donne tout de suite la parole, mais je passe encore là. Le temps passe. Madame Conta.
Alors, rapidement, bon, il ne faut pas oublier que lorsque l'Assemblée constituante a été installée, il n'y avait pas forcément une grande collaboration ou coopération de la part de l'État. Hein. Au contraire, c'était vraiment les pieds contre le mur. il y aura un tas d'anecdotes à raconter. Donc ça, il ne faut pas oublier. Et je pense qu'on a encore, chez les actuels conseillers d'État, une descendance de cette méfiance à l'égard de cette Assemblée constituante. Et a fortiori à l'égard d'un certain nombre de ces normes qui ont été adoptées dans la Constitution et qui sont, ma foi, fort intéressantes, mais pas mises en œuvre. La deuxième chose, au fond, en vous entendant, c'était de me dire, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une forme d'appropriation de ces droits fondamentaux. Et comment procéder pour que cette appropriation ait lieu? Alors, on a parlé des États généraux, qui d'un côté, c'est un grand pas-au-pas, mais en même temps, si c'est bien mené, construit, monté, on peut imaginer que toutes les forces concernées soient intégrées et pour arriver à des propositions intéressantes. Parce que moi, je crains fort qu'en laissant cette chose aussi importante à une commission aussi importante que la Commission des droits de la personne, on risque d'avoir un débat purement politique et personne ne risque de retrouver au fond les siens, et surtout, ça ne sera pas en fonction des intérêts, disons, des citoyens. Et une dernière remarque, ce serait plutôt une question à l'égard de Cyril, c'est de savoir si on connaît le nombre de citoyens qui ont utilisé la capacité, au fond, d'utiliser directement ces droits fondamentaux pour la justiciabilité. C'est-à-dire qu'on directement se sont réclamés du droit constitutionnel pour obtenir la reconnaissance d'un droit. Puisque c'est, pour un certain nombre d'entre eux, de ces droits fondamentaux, ils sont tellement précis qu'on pourrait imaginer, sans passer par la législation, directement avoir recours à ça.
Merci. Je vais essayer de répondre sur les différents points. Alors le premier, c'est, enfin, je commence par le dernier élément. S'agissant de l'invocation des droits fondamentaux devant les tribunaux, il y a effectivement de la jurisprudence à ce sujet, mais très diverse. Hein, je veux dire, il y a de la jurisprudence sur les sujets où la justiciabilité est en général reconnue, comme la question du droit à l'éducation ou la question des droits des personnes handicapées, par exemple, pour les sujets que je connais un peu le mieux. Par contre, à mon avis, relativement peu de jurisprudence sur le droit au logement ou sur le droit à un environnement sain, je pense, même quasiment presque aucune. Mais il n'y a pas de statistiques là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait introduire. Ou alors, en utilisant le moteur de recherche du pouvoir judiciaire, qui permet quand même de faire des recherches dans les différentes juridictions sur l'invocation des différentes dispositions. Mais il n'y a pas, ce travail, il n'est pas fait a priori. Maintenant, ça me permet de faire le lien avec la question de ce que soulevait Christophe sur le fait d'avoir aussi un contrôle sur l'activité du pouvoir judiciaire et je pense que oui, l'évaluation elle porte aussi là-dessus et elle doit pouvoir porter là-dessus, et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un organe qui soit vraiment indépendant des autres pouvoirs, quelle que soit après la modalité qu'on lui donne. Et puis sur le droit au logement, c'est important parce qu'on a eu des discussions homériques à ce sujet-là. Hein, et on a essayé de rendre... Finalement, on n'a plus d'article déclamatoire qui dit « les droits fondamentaux sont justiciables ». Et au début, certains étaient très fâchés de ça. Mais en réalité, je pense que c'était quand même une bonne chose parce que... Enfin, en tout cas, pas une mauvaise, on va dire. Parce que ce qui permet aux juridictions de se sentir obligées d'appliquer les droits fondamentaux, c'est quand même, comme tu l'as dit, Marguerite, leur caractère suffisamment précis. Et on a fait l'effort de préciser ce droit au logement, de dire que c'était une composante du droit à un niveau de vie suffisant et que quand il y avait des personnes qui étaient dans une situation de précarité en matière de logement, on peut regarder les travaux parlementaires, mais même le texte de la Constitution le dit d'une manière très condensée, mais il le dit quand même. Ces personnes qui sont en situation de précarité, par exemple, qui risquent d'être expulsées ou des situations de ce type, elles ont un véritable droit au logement, et donc on peut dans ce sens l'invoquer. Après, est-ce que c'est fait et qu'est-ce qu'on font les tribunaux? Sûrement pas grand-chose, mais en tout cas cette possibilité, elle a été vraiment voulue par le constituant. Maintenant, sur la question de savoir s'il faut agir au TF, si l'État n'agit pas, ben ça, c'est quelque chose que beaucoup se sont demandé, pas seulement pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand l'État n'agit pas? Et puis la réponse, et ça c'est vraiment un autre sujet encore que l'évaluation, malheureusement la réponse, encore que, hein, je pense qu'il y a un lien, effectivement dans le cas de l'évaluation, on pourrait soulever ce problème qu'en cas d'inaction d'État, on n'a pas de moyens à disposition. Et c'est vrai que quand il m'est arrivé d'en discuter avec une personne d'un organe de traité qui vient d'une juridiction complètement différente, en l'occurrence c'était l'Australie, quand j'essayais de lui expliquer cette lacune qu'on ne pouvait rien faire quand l'État n'agissait pas, c'est vrai que la personne me regardait un peu avec des grands yeux, donc visiblement c'est pas une fatalité, et dans d'autres juridictions ça se présente pas forcément comme ça, mais en tout cas pour le moment c'est comme ça, on n'a pas de moyens d'agir au TF. Et puis je voulais encore vous dire un truc sur les lanceurs d'alerte, parce qu'on a parlé de la résistance du Conseil d'État. Qui est arrivé avec cette histoire qu'il fallait supprimer l'anonymat des lanceurs d'alerte ? Je vous le donne en mille, le Conseil d'État, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à avoir une protection des lanceurs d'alerte. Et l'État, ce n'est pas toujours l'ami des droits fondamentaux, et c'est aussi parfois l'État qui fait des violations des droits fondamentaux. Et puis le dernier élément sur la politisation de la Commission des droits de l'homme, je ne veux pas vous dire faites-nous confiance, ne faites rien, etc. Au contraire, je vous dis mettez une pression au maximum, mais je pense que en même temps, la Commission des droits de l'homme n'est pas la commission la plus politisée de ce grand conseil, et que par rapport à une commission comme la commission des finances, on est vraiment à l'exact opposé, et on arrive quand même souvent à se mettre d'accord sur des choses. Évidemment, quand on parle de droits des migrants et migrantes, là, bon, on a quand même les représentants UDC-MCG qui font quand même un peu n'importe quoi, mais disons, d'une manière générale, on arrive souvent à trouver des consensus.
Vous avez encore une question ?
Non, juste une précision sur le droit au logement. L'ASLOCA, très régulièrement, invoque le droit au logement et des décisions judiciaires dans lesquelles les juges disent que le droit au logement n'est pas justiciable, ce qui est vraiment scandaleux. Donc il y a vraiment un travail à faire là sur cette question-là, parce que des juges disent que c'est dans les droits fondamentaux, mais on n'a rien à dire.
Ok. Patricia.
Merci. Ça vaut toujours la peine de comparer la situation dans d'autres pays, parce qu'il y a des cours suprêmes ou des cours constitutionnels d'autres pays, et pas nécessairement dans les pays occidentaux, hein, qui ont reconnu que le droit au logement était justiciable. Donc ça, pour moi, c'est plus une question d'éducation, enfin non, je vais dire un terme plus, une question de formation continue de la magistrature. Je veux dire, c'est un débat fondamental. On a pensé qu'il n'y avait que certains droits qui étaient justiciables, c'est-à-dire que moi, j'ai le droit d'aller devant un tribunal et d'obtenir gain de cause. Et puis que les autres, ils sont programmatiques, donc ça veut dire que l'État doit faire des lois ou des politiques publiques, voter des budgets, etc. Mais que comme individu, je ne peux pas me targuer d'un droit. Et le droit au logement, effectivement, comme Christophe Goulet le relève, il est typique de cette catégorie. Il a été conçu comme un droit programmatique et pas comme un droit que l'individu, qu'une personne peut invoquer devant un tribunal. Mais pour moi, on est dans une phase d'évolution de la réflexion sur ces droits dits programmatiques. Il y a eu des arrêts de la Cour suprême d'Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud et Inde aussi, et plusieurs dans des pays latino-américains qui sont beaucoup plus avancés que nos juridictions en Suisse.
Je fais ma thèse là-dessus, si vous voulez.
Je vais peut-être, là le temps file, je vais peut-être poser une toute dernière question. On a parlé de cette évaluation périodique. Moi, j'aimerais connaître un peu quel périmètre lui donner, parce qu'on peut analyser tout. Monsieur Varone montrait à quel point c'est difficile d'avoir une périodicité dans le sens en termes de capacité, de temps et tout ça. Quel est un peu le périmètre à donner à cette évaluation? Est-ce qu'on peut tout analyser ou est-ce qu'il faut se focaliser chaque année sur un aspect particulier ou une problématique qui a émergé au cours de l'année? Je ne sais rien, quoi. Baron.
Moi, je peux réagir du point de vue de la Cour des comptes. Donc, si on prend les droits tels qu'ils sont listés de l'article 14 à l'article 40, même avec les grandes catégories de politique publique, et qu'on fait une matrice, on arrive à plusieurs centaines d'évaluations. Donc, on voit bien
que c'est impossible pour quelque organe que ce soit de faire une évaluation sérieuse de toute cette politique publique. Si on parle d'évaluation dans le sens classique du terme, on évalue les effets et on essaye de faire des recommandations qui permettent de les améliorer parce qu'on connaît le fonctionnement direct de ces politiques publiques. Donc du point de vue de la Cour des comptes, et je me tairai après, nous ne sommes pas du tout fermés à réaliser une évaluation qui serait considérée comme prioritaire par quelqu'un de l'extérieur, qui reste anonyme en passant par le système BKMS, ou que ça soit une association qui nous envoie une demande. Pour faire de l'évaluation, vous l'avez dit, Madame Schulz, il faut connaître les méthodes d'évaluation, il faut connaître le contenu de la politique publique. Je vous assure que les méthodes, on les maîtrise un peu, et le contenu, on est prêt à l'apprendre. On l'a fait pour la politique de la prostitution, qui était la première demande qu'on nous a faite. Ce n'était pas dans les compétences directes des évaluatrices, évaluateurs ou magistrats et magistrates de connaître le menu plaisir au paquis. Mais on est descendu de nuit pour faire cette évaluation sur le terrain. On le fera pour n'importe quel droit humain que vous considériez prioritaire. Et à nouveau, c'est peut-être juste un statement un peu formel, je crois que la Cour des comptes est prête à entrer en matière sur une politique publique particulière qui peut toucher à un ou à plusieurs droits fondamentaux, mais certainement pas sur une évaluation périodique, répétitive, parce que les compétences lui manquent. Ou alors, elle est une autre définition de ce qu'est l'évaluation.
Je crois qu'au niveau municipal, on parle de zéro ou de moins 100, même, je vous dirais, en termes de droits humains et de réalisation, de, ne serait-ce qu'une prise de conscience au niveau des droits humains et de ces violations et de leur impact au niveau municipal. Mais en ville de Genève, dernièrement, on a eu en tout cas des moyens au niveau des politiques publiques de répondre à certaines de ces violations de manière prioritaire. Si je prends les paquets que j'ai donnés tout à l'heure, qui sont une suggestion, encore une fois, si on prend le paquet étranger, logement et aide sociale, ou le paquet développement de Genève, c'est deux aspects sur lesquels, en effet, la ville de Genève a une grande marge de manœuvre en matière de compétences et pourrait amener des réponses politiques, que ce soit en matière financière ou en matière même procédurière.
Voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce très intéressant débat. Je vous remercie. On remercie les panélistes pour leurs interventions très pertinentes et merci pour vos questions. Alors, bonne soirée à tout le monde et merci.